à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, en direct de Washington. Nous sommes le jeudi 8 février 2018. Les titres que nous allons développer dans cette demi-heure. Des manifestants interpellés au Tchad, où une marche anti-austérité a été interdite par le gouvernement.
La mobilisation, il est vrai, n'a pas été très forte, nous le reconnaissons. Cela ne nous surprend pas parce que c'est une mobilisation répétée.
Des arrestations en Guinée après des affrontements meurtriers post-électoraux. Au Burundi, début de l'inscription des électeurs pour un référendum qui devra permettre au président Nkurunziza de briguer deux autres mandats. Dans le conflit syrien, une centaine de combattants pro-régime tués par la coalition internationale. Et comme à l'accoutumée, rendez-vous dans 10 minutes avec l'économie et les sports. Peu de Tchadiens sont descendus dans les rues aujourd'hui pour le jeudi de la colère, organisé par la société civile contre les mesures d'austérité et la mauvaise gouvernance. Une marche à N'Djamena, la capitale, a été interdite par les autorités. 12 des manifestants ont été interpellés, d'après la police. Le point avec Salwa Jafari.
Une journée presque comme les autres, à N'Djamena, la journée de la colère n'a pas mobilisé grand monde. Une vingtaine de personnes, dont le leader de la société civile, Mohamed Nour Ibedou, se sont rassemblées en début de matinée dans le centre de la capitale tchadienne. Le groupe a entamé une marche avant de se disperser. Un autre rassemblement de moins de 10 personnes a eu lieu devant une poste du sud de la ville, scandant des slogans contre le président Idriss Déby. Ces chiffres ont été confirmés par le porte-parole de la police. Les manifestations avaient été interdites par le gouvernement pour des raisons de sécurité et une forte présence policière a été visible sur la plupart des ronds-points de la ville, alors que la police quadrillait les grandes artères. Depuis fin janvier, les appels à marcher contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement se sont multipliés, autant que les interdictions du gouvernement. Mardi, pour avoir soutenu un appel à manifester, 10 partis d'opposition ont été suspendus pour 2 mois pour troubles à l'ordre public et incitation à la violence.
Tchad, toujours, le cinéaste Mohamed Saleh Haroun a été démis de ses fonctions de ministre de la Culture et du Tourisme par un décret gouvernemental. Primé au Festival de Cannes en 2010, il occupait le poste depuis 1 an. D'après le décret, Saleh Haroun a été appelé à d'autres fonctions. Le communiqué n'indique toutefois pas les raisons de sa démission. Il a été remplacé par Djiber Younous, lui-même ancien ministre de la Culture. De la drogue et des munitions ont été découvertes à Ipi, en République centrafricaine, cachées dans un camion affrété par une entreprise privée sous contrat avec l'ONU, d'après la mission des Nations Unies dans le pays, la MINUSCA, qui a ouvert une enquête. Le camion appartenait précisément à un sous-traitant de l'entreprise Ecologue, dont le siège social est à Dubaï. La MINUSCA a convoqué les dirigeants de l'entreprise à Bangui, la Centrafrique, où de nombreux groupes armés continuent de sévir et visés par un embargo sur les armes depuis 2013. La crise anglophone au Cameroun, l'Union européenne appelle l'armée du pays à faire un usage proportionné de la force dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des forces de sécurité y ont été déployées en nombre par Yaoundé il y a plusieurs semaines pour contrecarrer les attaques de séparatistes présumés contre les symboles de l'État. 22 policiers et soldats ont été tués depuis le début de la crise, d'après un décompte établi sur la base des déclarations officielles. En Guinée, je vous le disais en titre, au moins 50 personnes ont été interpellées suite à des violences qui ont fait 5 morts après les élections locales de dimanche. Les précisions avec Dili Diko.
Les arrestations ont eu lieu à Kalinko, dans une localité située au centre de la Guinée, où des cases et des maisons ont été incendiées mardi. Bouré Makonde, ministre de l'administration du territoire, a indiqué mercredi que 5 enfants ont péri dans ce village à la suite d'un incendie volontaire. Une version démentie par un député local de l'opposition, Fodé Marega, qui évoque un bilan de 3 enfants tués dans un incendie et 2 adultes brûlés vifs par des manifestants en colère. Selon le préfet Mamadou Lamarana Diallo, les forces de l'ordre ont interpellé au moins 50 personnes qui ont toutes été transférées à la prison de Farana. Depuis dimanche, les violences post-électorales ont aussi causé la mort d'un étudiant à Conakry et d'une personne à Kindia, dans l'ouest du pays. L'opposition affirme que ces élections locales ont été entachées de fraude massive. Mardi, elle a appelé la jeunesse à se mobiliser pour exiger la vérité des urnes. Les résultats sont promis demain, vendredi.
L'ONU demande $1 milliard pour les victimes de Boko Haram au Nigeria. L'appel de fonds lancé aujourd'hui permettrait d'aider plus de 6 millions de personnes victimes de l'insurrection du groupe djihadiste, notamment dans les états de Borno, Yobe et Adamawa. Le gouvernement nigérian s'est proclamé à plusieurs reprises vainqueur de Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari assurant en décembre 2015 que les djihadistes avaient été techniquement battus, mais ils constituent toujours une menace et commet régulièrement des attentats suicides meurtriers ainsi que des raids contre des villages ou des postes militaires. Au Burundi, l'inscription des électeurs pour le référendum constitutionnel prévu en mai 2018 est contestée par l'opposition, a débuté aujourd'hui et durera jusqu'au 17 février. Ce référendum permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 deux autres mandats de 7 ans. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Nous venons ici pour acheter un ticket qui nous permettra d'aller à la compétition ou d'aller assister au match. Vous ne pouvez pas aller assister au match, vous n'allez pas aller à la compétition sans pouvoir avoir le ticket. Nous demandons à tous les Burundais, au peuple burundais, surtout les partis politiques, de pouvoir s'enregistrer afin d'avoir l'autorisation de participer aux compétitions qui viendront demain.
Voilà le message que le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, a lancé à tous les Burundais ce jeudi au lycée municipal du quartier Nyakabiga, au centre-ville de Bujumbura. Cette inscription des électeurs se terminera dans 9 jours selon la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les électeurs, certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient venus s'enregistrer. D'autres ne connaissaient pas les principaux changements apportés dans la nouvelle constitution qui permettra au président Pierre Nkurunziza de briller deux mandats de 7 ans à partir de 2020. La candidature du président burundais en 2015 pour un troisième mandat controversé a été le prélude d'une crise sociopolitique qui a fait au moins 1000 morts et plus de 400 000 réfugiés dans les pays limitrophes, selon les Nations Unies. Rappelons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pointé du doigt la volonté des autorités de Bujumbura de réformer la constitution sans dialogue préalable avec l'opposition et la société civile intérieure en exil. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Également, dans l'actualité africaine, l'opposition sud-africaine accentue la pression sur le président Jacob Zuma en demandant aujourd'hui d'avancer à mardi prochain le vote d'une motion de défiance pour sortir au plus vite de l'impasse créée par son refus de démissionner malgré les injonctions de son parti. Le président et son très probable successeur, Cyril Ramaphosa, le nouveau patron de l'ANC, ont engagé officiellement des pourparlers présentés comme fructueux en vue de négocier la transition. Toujours en Afrique du Sud, le gouvernement va indemniser les familles de plus d'une centaine de malades mentaux décédés en quelques mois à Johannesburg de mauvais traitements ou faute de soins et de nourriture dans des conditions qui ont choqué le pays. L'État et la plupart de ces familles sont parvenus à un accord sur le versement pour chaque plaignant de 200 000 randes pour les frais d'enterrement et le préjudice émotionnel. Le gouvernement éthiopien a ordonné aujourd'hui la libération de 746 prisonniers, parmi lesquels le blogueur Eskinder Nega et l'opposant Andualem Arage, dont les arrestations avaient suscité la réprobation de la communauté internationale. Cette libération fait suite à la promesse le 3 janvier du Premier ministre Haile Mariam Desalegn de libérer un certain nombre d'hommes politiques. La Russie va renforcer les capacités militaires du Soudan. D'après le président Omar El-Béchir, un programme a été mis en place et a pour objectif de développer l'armée soudanaise afin qu'elle puisse faire face à toute menace.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international en Syrie, la coalition internationale menée par les États-Unis annonce avoir tué au moins 100 combattants des forces pro-régime dans l'est du pays. Le point avec Yacouba Ouédraougou.
Les raids de la coalition ont eu lieu la nuit dernière dans la province de Deir ez-Zor. D'après le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient, les frappes de la coalition ont été menées en riposte à une attaque contre le quartier général des rebelles. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 45 morts dans les rangs des forces pro-Bachar, ajoutant que les frappes du régime syrien sur la rébellion ont tué 36 civils et ont fait 185 morts depuis lundi. Ces combats interviennent sur fond de tensions entre Damas et Washington. Les États-Unis accusent le régime syrien d'avoir utilisé des armes chimiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi pour discuter d'une trêve humanitaire d'un mois réclamée par les agences onusiennes basées à Damas.
Sachez également que les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan sont convenus lors d'un entretien téléphonique ce jeudi d'organiser prochainement à Istanbul un sommet Turquie-Russie-Iran consacré à la Syrie, la Russie et l'Iran qui soutiennent le régime de Bachar al-Assad et la Turquie qui appuie l'opposition avaient tenu un premier sommet trilatéral à Sotchi en Russie en novembre dernier. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a besoin d'entreprises plus performantes pour devenir un pays émergent. Abidjan vise de prendre cette place dès 2020. La Banque mondiale déplore cependant l'absence des technologies modernes et des investissements dans la recherche et l'innovation. La productivité du travail et du capital d'une entreprise est 3 à 4 fois inférieure à celle d'une entreprise en Indonésie, au Maroc ou en Chine. L'institution de Bretton Woods appelle à changer de stratégie en urgence. La Côte d'Ivoire reste la première économie francophone d'Afrique de l'Ouest, mais le niveau actuel du revenu par habitant est inférieur à celui du début des années 1980. Une Mona Lisa africaine aux enchères à Londres. Ce tableau est estimé entre 200 000 et 300 000 livres. Il s'agit du portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, surnommée Tutu, peint en 1974 par l'artiste nigérien Ben Enwonu. Ce chef d'œuvre est un symbole d'espoir et de régénération au Nigeria. Friction commerciale entre la Chine et les États-Unis à la suite des enquêtes sur des importations chinoises. Washington applique des droits de sauvegarde sur des panneaux solaires chinois et les grandes machines à laver, l'acier, feuilles d'aluminium, bois contreplaqué. Pékin n'exclut pas une mesure de rétorsion visant l'agriculture, en particulier le soja, et une enquête anti-dumping sur le sorgho américain est en cours. La Chine a acheté en 2017 pour 14 milliards de dollars de soja américain.
Vous l'avez compris, c'est l'heure maintenant d'un résumé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
J-1 avant l'ouverture des JO d'hiver 2018 en Corée du Sud, qu'attendre pour l'Afrique?
Au total, 8 pays africains seront représentés aux Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, une participation africaine inédite dans toute l'histoire de ces Jeux. Les 23e Jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvrent demain en Corée du Sud, avec les débuts remarqués de l'Érythrée et du Nigeria qui seront aux côtés du Kenya, du Maroc, du Ghana, de Madagascar, de l'Afrique du Sud et du Togo. Akwasi Frimpong deviendra le premier Ghanéen à participer au Skeleton, tandis que Sabrina Simader et Nia Litiana Clerc deviendront les premières femmes à représenter respectivement le Kenya et Madagascar. L'équipe de bobsleigh du Nigeria deviendra également la première équipe africaine à participer à ce sport aux Jeux Olympiques.
Et l'Afrique qui rêve d'accueillir les Jeux Olympiques d'été.
Thomas Bach, le président du Comité international olympique, a indiqué que le continent africain pourrait accueillir pour la toute première fois des Jeux Olympiques d'été dès l'édition 2032 ou 2036, alors que le CIO a exprimé son désir de voir les JO de la jeunesse en 2022 organisés en Afrique. On rappelle que les Jeux Olympiques d'été 2024 auront lieu à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles.
Basket féminin, les adversaires des équipes africaines au Mondial 2018 sont connus.
Et oui, l'équipe du Sénégal affrontera les États-Unis, la Lettonie et la Chine dans le groupe D de la Coupe du Monde 2018. Elle aura lieu en septembre prochain en Espagne. Dans le groupe B, les championnes d'Afrique nigérianes défieront, elles, les Australiennes, les Turques et les Argentines.
NBA, championnat de basket nord-américain.
LeBron James a offert le panier de la victoire aux Cavaliers de Cleveland, venu à bout de Minnesota dans les prolongations 140 à 138. En Floride, Houston et son joueur vedette James Harden ont confirmé leur grande forme en dominant Miami 109 à 101.
Harden, auteur de 41 points pour les Rockets.
A noter les 41 points de James Harden. De leur côté, les Spurs de San Antonio ont entamé leur série de 6 matchs à l'extérieur par une victoire sur les Suns de Phoenix 129 à 80. Enfin, à Détroit, les Pistons se sont imposés face aux Nets de Brooklyn 115 à 106.
Merci bien Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide en votre compagnie sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Je vous le disais tout à l'heure, très faible mobilisation pour la journée de la colère à N'Djamena, la capitale tchadienne, où les rassemblements ont été interdits par les autorités. Une forte présence policière y était visible. Nathalie Barge a joint Mahmad Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains.
La mobilisation, il est vrai, n'a pas été très forte, nous le reconnaissons. Cela ne nous surprend pas parce que les intimidations répétées du ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique, M. Bache, qui avait d'ailleurs la veille menacé les dissolutions des partis politiques et les associations de la société civile qui tenteraient d'organiser une marche. Et il a mis sa menace à exécution. Quand il a suspendu les activités de 10 partis politiques. Il y a ça, et puis, il n'hésite pas à menacer, réprimer toutes les manifestations qui passent outre à l'interdiction. Nous l'avons toujours dit, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et l'interdiction de toute marche a toujours été systématique au Tchad. Mais malgré ça, malgré les intimidations, malgré ceci, l'armada, les armes de guerre et autres groupes importants, plus gendarmerie, police, gardes nomades et autres, qui avaient quadrillé pratiquement la ville. Malgré tout ça, les leaders des organisations qui sont membres de notre collectif ont descendu dans la rue.
Qu'en est-il de la grève générale illimitée?
La grève a été décrétée hier, suite à une assemblée générale qui avait regroupé la plateforme revendicative des trois syndicats ad hoc. Suite à cette assemblée générale, avait décrété une grève illimitée.
Qu'attendez-vous de la part du gouvernement?
Ils font semblant de négocier avec le syndicat. Mais en fait, ils ne cèdent rien du tout. Ils exigent des syndicats des concessions. Or, il est difficile, vous comprenez, pour un fonctionnaire de voir son salaire abattu à près de 50%. Et ces abattements sont survenus au moment où il y a une hausse quasi simultanée des produits de première nécessité, à savoir le carburant, l'eau, l'électricité, etc. Et ça, c'est intolérable. Le gouvernement n'accepte pas, il dit que c'est les bailleurs qui l'ont contraint à ces mesures antisociales. Or, la mauvaise gestion de notre gouvernement a fait que tous les secteurs qui génèrent des recettes ont à la tête des responsables qui appartiennent tous à la famille de M. Déby. Elles sont intouchables et elles détournent systématiquement toutes les recettes.
L'augmentation de l'impôt sur le revenu, quelle catégorie de salaire touche-t-elle en particulier?
Toutes les catégories. L'impôt sur le revenu à l'époque était de 10,5% par salarié. Maintenant, c'est le triple.
On écoutait Mahmad Nour Ibedou, porte-parole du collectif de la société civile, contestant les mesures d'austérité au Tchad.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, la Cour constitutionnelle est réduite à 6 sages depuis la démission du magistrat de haut niveau, Simplice Dato. Son départ est perçu comme une manœuvre du gouvernement du président Patrice Talon pour fragiliser et contrôler l'institution de Cotonou. Le reportage de notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
En 28 ans de vie constitutionnelle, c'est bien la première fois qu'un sage de la Cour constitutionnelle démissionne en pleine situation de crise. Les Béninois ont été surpris par ce départ inattendu, surtout au moment où il est attendu de cette institution des décisions pour décrisper la situation sociale du pays. À la Cour, c'est un silence total autour de cette démission. Le secrétaire général de l'institution s'est prêté à nos questions. Pour lui, les raisons de cette démission sont connues du président de la Cour et du démissionnaire.
Je saurais vous dire à la date d'aujourd'hui les raisons qui motivent cette démission. Le constituant et le législateur organique ont tout prévu et la Cour fonctionne tout à fait normalement.
Pour certains hommes de droit, si la loi fondamentale permettait à tout ça de déposer quand ils le désirent son tablier, la période n'était pas favorable à un départ.
C'est vrai que du point de vue du droit, c'est prévu, mais dans un tel contexte où les médias attaquaient la Cour constitutionnelle, un membre de cette institution, je
je pense que même si on a envie de démissionner, on devrait attendre pour ne serait-ce que se sacrifier pour la nation.
Mais pour d'autres comme Bastien Salami, cette décision est le signe d'un malaise profond existant au sein de l'institution.
La Cour s'est trompée volontairement dans un but précis. Je suis à l'aise pour dire aujourd'hui qu'en réalité, il y a un malaise profond au niveau de cette Cour, de sorte que le conseiller qui a démissionné n'est certainement pas le seul.
Le conseiller démissionnaire a été nommé par le président de la République et donc il appartient au chef de l'État actuel de nommer son remplaçant et c'est ce qui attise la méfiance de la classe politique et de la société civile. Plusieurs associations ont appelé le chef de l'État à ne pas fragiliser les institutions de la République. Le clergé s'y est même mêlé à travers une conférence de presse à appeler les hommes politiques à cesser d'utiliser l'agent à des fins plus recommandables.
Que tous les fils et filles du Bénin fassent reculer le pouvoir de l'argent sur la vie politique nationale. Cette pratique mêle à l'impasse et érige à petits coups un système d'approvisionnement matériel, moral et spirituel de notre société.
En l'absence d'une version officielle des raisons de cette démission, les rumeurs vont bon train. Le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, explique que le gouvernement Talon est conscient de ce que les décisions de la Cour sont inattaquables.
Nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques. C'est une question d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, se prononcent et apprécient. Et il s'agira de transformer les difficultés en opportunités et de faire avancer notre pays.
Conformément au règlement intérieur de la Cour, son remplaçant devra être nommé au cours du mois de la démission, c'est-à-dire en janvier dernier. Au grand étonnement de l'opinion, le gouvernement qui doit procéder à cette nomination n'en parle pas. Cotonou, je l'ai fait attendre pour VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi 8 février 2018, en Guinée, cela faisait une décennie que cela n'était plus arrivé. La possibilité de voter dans une élection locale, d'élire son maire, son conseiller municipal ou régional. Avec près de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes dimanche dernier, 30 000 candidats sur les listes. Quels sont les enjeux de ces élections? Comment interpréter le faible taux de participation et la vague de contestation suite aux accusations de fraude? Les conditions sont-elles réunies pour que la Guinée puisse organiser les prochaines élections présidentielles de 2020? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin et ses invités.
Cap à présent sur le Congo-Brazzaville, où le gouvernement a décidé de dissoudre les compagnies d'eau et d'électricité. Après plusieurs mois d'enquête, les autorités affirment qu'elles n'ont pas été à la hauteur des attentes. Les populations lassées par des coupures intempestives d'eau et de courant se réjouissent de cette annonce. Sur place, notre correspondant Nguela Ngoussou nous dit davantage dans ce reportage.
Pour de nombreux Congolais, la dissolution de la SN2 est un soulagement. La mauvaise qualité des prestations est le principal motif de cette satisfaction. Dimitri Sobileka, un habitant du quartier Wenze, est par exemple obligé de monter plusieurs fois sur la terrasse de sa maison pour lancer le générateur à la moindre coupure du courant.
On a passé pratiquement 2 jours sans électricité et le groupe a fonctionné pendant ces 2 jours-là. Ça nous met vraiment en difficulté. Je pense que c'est peut-être quelque part un soulagement dans le sens où la gestion sera autrement que ce que nous vivons maintenant, parce qu'il arrive de moments où pour une seule facture, on vient vous couper l'électricité. Alors que quand on nous déleste, ils nous disent bon.
À Moutabala, un autre quartier de Brazzaville, les populations côtoient l'insécurité, faute d'électricité. Albon Tieté, l'un des habitants de ce quartier, déplore le retour du grand banditisme.
Ces derniers temps, on peut faire 2 jours sans électricité. Bien sûr, il y a l'insécurité, les gens ont peur. Et surtout ces derniers temps, les voleurs sont en train de les voler parce que pratiquement nous sommes dans les noirs.
Mais les responsables des associations des intérêts des consommateurs appellent les populations à la prudence. Ils estiment que la dissolution annoncée par les autorités de la SNE et de la SNDE est un véritable saut dans l'inconnu. Maire Mosba Bunga, secrétaire exécutif de l'Association pour la défense des droits des consommateurs du Congo.
La joie, on a dissous. Maintenant, nos craintes, c'est que les nouveaux investisseurs qui vont arriver, est-ce qu'ils vont nous offrir la meilleure qualité de service? Est-ce que les investisseurs qui vont arriver vont maintenir surtout les coûts actuels qui doivent tenir compte du pouvoir d'achat du consommateur congolais. Nous souhaiterons que les associations de consommateurs soient impliquées dans les réflexions qui seront mises en chantier afin de donner notre point de vue.
De leur côté, les travailleurs de deux sociétés liquidées font des insomnies. Leur avenir est très incertain. C'est ce que traduit ici Edouard Adzosa, syndicaliste.
Pour donner l'eau et le courant, qui sont du domaine de la souveraineté, à des privés, ce serait une erreur très grave que le Congo pourra payer cher. Maintenant, le gouvernement va dire qu'il n'y aura pas de licenciement. Mais ça, c'est un leurre, parce qu'un privé n'a que le profit. Là où le gouvernement n'a pas pu, le privé ne viendra pas. Les plaintes des travailleurs sont réelles. Il ne faut pas qu'on se leurre la face.
La dissolution de la société d'électricité ainsi que celle de la distribution d'eau est motivée par le manque d'argent au niveau de l'État qui ne peut plus continuer de les financer. Le dossier est désormais sur la table du Parlement qui prendra une décision finale. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Pour clore cette partie magazine, ici même aux États-Unis, le président Donald Trump veut une parade militaire pour la fête nationale américaine, comme celle qu'il a vue sur les Champs-Élysées lors du défilé du 14 juillet. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le Pentagone est déjà à pied d'œuvre pour un défilé militaire le 4 juillet à Washington, a fait savoir James Mattis, le secrétaire à la Défense.
Nous sommes en train de mettre ensemble quelques options et nous allons les envoyer à la Maison-Blanche pour une décision.
Tenter de comprendre d'où vient cette soudaine envie présidentielle n'est pas chose évidente. Pour le patron du Pentagone, c'est simplement l'amour du président pour les troupes.
Le respect du président, sa passion pour l'armée, je crois, peuvent expliquer sa volonté.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Le général à la retraite Paul Eaton n'y perçoit que du narcissisme.
Ça n'a rien à voir avec les troupes. C'est pour satisfaire l'ego du chef suprême de notre armée.
Le président Trump a souvent dit qu'il voulait une meilleure parade militaire que celle qu'il a vue le 14 juillet dernier à Paris. Les défilés militaires grandioses sont très rares aux États-Unis. Le plus récent remonte aux années 90, lorsque les troupes américaines célébraient leur victoire dans la première guerre du Golfe. Les détracteurs disent que les parades militaires sont souvent associées aux dictatures, pour exemple la Corée du Nord avec ses missiles, les célébrations de Moscou ou le grand défilé militaire à Pékin pendant la visite de Donald Trump en Chine. Pour le général Eaton, l'armée a des choses plus importantes à faire.
Avec la guerre en cours en Afghanistan, l'Irak où nous sommes présents et peut-être des préparatifs pour faire face à la Corée du Nord, les troupes n'ont simplement pas le temps. C'est tout juste une colossale et mauvaise idée.
Avec le budget du Pentagone tout juste approuvé par le Sénat, trouver l'argent pour une parade militaire coûteuse peut être compliqué. Mais le commandant en chef de l'armée américaine est connu pour ne jamais reculer.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205. 2633. 001-202-205. 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Joselle Morissin a assuré la mise en onde. C'était Thormes Blondin à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique et n'allez nulle part ailleurs, car dans quelques petits instants, vous allez retrouver Henri Francisque pour les dernières actualités. À très bientôt. Take care.
Afrique. Les infos.